France Info.
Bonsoir François de Rugy, mais jusqu'à quand à la une des informés? Vincent Lambert, le feuilleton devient judiciaire. Notre sondage au Doxa Dentsu Consulting sur les couacs du bac. Et Cédric Villani, électron libre à Paris. On en parle avec nos invités. Bonsoir à vous, Véronique Reilsoult.
Bonsoir.
Directrice générale de Dentsu Consulting. À mes côtés également, bonsoir Henri Vernet.
Bonsoir.
Rédacteur en chef adjoint au Parisien aujourd'hui en France. Et bienvenue, Mathieu Aron.
Bonsoir aussi.
Grand reporter et conseiller éditorial à l'Obs. J'ai le plaisir d'accueillir également Romain Mouton.
Bonsoir. Bon,
bienvenue,
bonsoir.
Romain. Communicant, fondateur de l'agence RM Conseil. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h, comme tous les soirs, à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. Mais jusqu'à quand peut-il tenir? Édouard Philippe n'a pas réclamé sa tête. François de Rugy est donc maintenu à son poste. Malgré les révélations de Mediapart sur les dîners fastueux à l'hôtel de Lassé, le ministre de la Transition écologique qui avait écourté son déplacement dans les Deux-Sèvres pour être reçu cet après-midi à Matignon a dit ne vouloir laisser aucun doute. Il s'est engagé à rembourser chaque euro contesté. Écoutez ce qu'il déclarait plus tôt dans la journée lors de sa visite à Saint-Séphorien, c'est près de Niort, après avoir été accueilli par des manifestants brandissant un homard en plastique géant.
Je suis évidemment très attentif à ce que toutes les explications soient données et que si avec des personnalités extérieures, comme la déontologue de l'Assemblée par exemple, mais ça peut être d'autres formules, il y avait des vérifications à faire, je suis tout prêt à m'y livrer et s'il y avait eu des erreurs d'appréciation de ma part, je serai tout prêt également à les corriger. Ça fait partie, c'est normal. Ce sont les comptes que l'on doit rendre aux Français. Je suis élu, vous savez, depuis 2001, j'ai toujours rendu des comptes aux Français.
Henri Vernet, s'il y a des erreurs d'appréciation, je suis prêt à les corriger. Est-ce que c'est la bonne attitude, sont les bons mots pour tenter de sortir de cette affaire?
Non, pas vraiment, parce qu'on est au-delà des erreurs d'appréciation. C'est vraiment une faute politique, une faute de goût. C'est un manque de sens politique qui est assez quand même assez surprenant. Quoi. Le pays est dans une telle crise, c'est la France des Gilets jaunes et d'après les Gilets jaunes, on est vraiment dans la faute de quart majeur politique. Donc non, les mots sont assez faibles. Là, il est un peu comme le petit garçon pris en faute, hein, qui est puni par le proviseur. Il y a vraiment ce côté-là. Et puis ce homard, c'est évident qu'il le... Parce que, vous savez, les crises et scandales, ce sont toujours des images.
Oui, et là, évidemment... Vous retenez la photo des homards, là.
Mais exactement, oui, c'est ça qui l'a tué, sans faire cette blague éculée. Mais c'est quand même la réalité. C'est vraiment l'image vient bien au-delà de ces homards, vient bien au-delà de cette erreur, de cette faute. Parce qu'on sait bien que les tables de la République sont fastueuses. Hein, notre République est monarchique, donc c'est pas en cela qu'il a péché. C'est l'image du homard totalement décalée, et puis surtout ce mélange des genres, et c'est ça qui est insupportable, c'est ça qu'il faut arrêter, ces ministres, ces serviteurs de la République qui prennent un hubris, comme dirait Colomb, quand ils arrivent aux affaires, et qui oublient la connexion avec le monde réel.
Romain Mouton, vous partagez le point de vue de Henri Vernet sur la République, on va faire un jeu de mots, homarchique, hein.
Non, pas plus, pour plusieurs raisons. Déjà, que le quatrième personnage de l'État fasse des dîners chez lui, enfin à l'hôtel de Lassé, justement, pas chez lui, dans un lieu de la République, recevoir des acteurs de la société civile soit évangéliser, soit prendre le pouls de la société, ça ne me choque pas. Que le président de l'Assemblée nationale, quatrième personnage de l'État, fasse des travaux dans des monuments détenus par l'État qui le nécessitent, ça ne me choque pas maintenant.
Donc vous validez tout ce qui a été fait. Pour vous, c'est...
Oui, honnêtement, voilà. Je ne suis pas choqué à partir du moment 1.
Honnêtement, c'est parce que j'ai dit, moi j'ai parlé du mélange privé-public. Le reste, je l'ai dit, que la République soit monarchique, on le sait. Hein. Mais c'est vraiment le mélange privé-public qui me dérange.
Qu'on voit qui était invité, première chose, et qu'on voit, deuxièmement, si ces travaux ne sont pas un caprice, mais plutôt une vraie nécessité de l'État. Après, pas de chance. Pour François de Rugy, il y a deux choses qui vont le marquer à la culotte. Il y a effectivement l'image du homard, et qui, du coup, on l'a vu dès aujourd'hui.
Ça va lui coller à la peau, ça.
Coller à la peau, bien évidemment. Et la deuxième chose aussi qui joue contre lui, c'est la concomitance avec l'éviction de sa directrice de cabinet, qui, elle, a fauté, je suis pas juge pour juger quoi que ce soit, mais en tout cas, elle qui a été mise en cause, et elle, par contre, elle a été virée. Donc, en gros, c'est vrai que dans l'opinion publique, on peut se dire, sa collaboratrice, elle a viré parce qu'elle a fauté, mais lui, il est toujours en place alors qu'il a fauté. Pour lui, c'est quand même la double dose de maladresse.
La directrice de cabinet, donc, exclue, renvoyée, pour vous, Mathieu Aron, il y a un petit côté fusible dans tout ça?
Écoutez, oui, il y a un côté fusible pour la directrice de cabinet, mais en ce qui concerne François de Rugy, écoutez, on se demande combien de temps ça va durer, quand même. Parce que ces politiques se font prendre de cette façon depuis 20 ou 30 ans. L'un parce qu'il habite dans un appartement dans lequel il ne doit pas habiter, l'autre parce qu'il achète des homards, parce qu'il y a les homards, mais aussi il y a les bouteilles de Grand Cru, etc.
Les Grand Cru.
Il n'y a pas de raison en France que le contribuable, vous, moi et tout le monde, paye les homards et les bouteilles de Grand Cru de Monsieur de Rugy, qui reçoit visiblement,
mais en désaccord,
visiblement autant ses amis que des connaissances, dans un mélange, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Henri, privé-public, qui n'est pas acceptable. Vous savez, il y a un pays, par exemple, c'est la Norvège, et beaucoup de pays de l'Europe du Nord, où il y a un document que j'ai pu consulter, de 200 à 300 pages, qui fixe exactement les conditions dans lesquelles les parlementaires et les élus norvégiens peuvent acheter tel ou tel cadeau, ou quand ils vont au restaurant, ouais, peuvent choisir même tel ou tel vin, et avec un degré de précision absolument incroyable. Alors, on peut toujours se dire, c'est pas la même culture, les
vous
Norvégiens
pensez qu'il
vont
imposer
trop loin.
Ce système chez nous.
Il n'empêche que on est dans un système où, je crois, les citoyens français, qui sont aussi des contribuables, n'acceptent plus que leurs impôts servent à payer les agapes d'un tel ou d'un tel.
Alors, voici donc les avis partagés des uns et des autres. On n'a pas entendu ce qu'en pense Véronique Reilsoult. Retenez vos arguments, Véronique. Vous en remarquez. C'était intéressant de savoir de prendre le temps de dire les choses. 20h10 sur France Info. Tout d'abord, chère Véronique, le rappel de l'info avec vous, Solène Cresson.
Le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, continue de réclamer sa démission sur France Info, mais François de Rugy est bien maintenu à son poste au sein du gouvernement. Le ministre de la Transition écologique a vu le Premier ministre cet après-midi, après les révélations de Mediapart sur des dîners privés au moyen de l'Assemblée nationale. Le CCE de Conforama reprend demain matin à 8h30 au siège social de l'enseigne. Ce comité central d'entreprise a été interrompu ce matin. Plusieurs dizaines de syndicalistes de la CGT y ont fait irruption. Le CCE doit apporter les détails sur les 1900 suppressions de postes prévues. La surveillance sanitaire étendue à tous les enfants de moins de 11 ans dans la vallée de l'Orbiel dans l'Aude. Décision de l'Agence régionale de santé alors que depuis la fin juin, plusieurs enfants ont présenté des taux d'arsenic plus élevés que la moyenne. Cette vallée est située à proximité d'une ancienne mine d'arsenic. Le jugement sera rendu le 20 décembre dans le procès France Télécom, terminé cet après-midi. Un procès pour harcèlement moral après le suicide de 19 salariés à la fin des années 2000. Le parquet a requis les peines maximales d'un an de prison et 15 000 euros d'amende pour les anciens dirigeants. Et puis un dernier kilomètre terrible pour les coureurs du Tour de France, et c'est le Belge Dylan Teuns qui l'emporte au sommet de la planche des Belles Filles dans les Vosges. L'Italien Giulio Ciccone prend, lui, le maillot jaune.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Avant d'écouter les arguments de la majorité de l'opposition, Véronique Reilsoult, vous qui consultez les réseaux sociaux, que dit l'opinion ?
Alors déjà, l'opinion a été passionnée par le sujet parce qu'il y a plus de 350 000 messages en deux jours sur cette affaire.
Ah, ça cartonne.
Pour vous donner une idée, Monsieur de Rugy, qui a beau être le numéro 2 du gouvernement, en moyenne, il a 2-3 000 messages par jour sur lui. 350 000 en deux jours, on peut dire que c'est un bon score. Donc en tout cas, ça intéresse les gens. Pour revenir sur l'argument de Mathieu Aron, en fait, les internautes retiennent une partie de cet argument qui est il a qu'à carafer ses vins pour qu'on ne voit pas ce qu'il sert, il a qu'à mieux camoufler, mais c'est un tout petit bout des 350 000 messages. La réalité, c'est qu'en fait, ce qui les choque, c'est pas tant qu'ils reçoivent de façon somptuaire, c'est que ce monsieur a donné beaucoup de leçons. Et le web a de la mémoire. Et donc, on voit ressortir depuis deux jours implacablement des tweets de 2012 où, par exemple, il est accusé d'avoir passé des vacances payées par des entrepreneurs. Le président allemand démissionne, trois petits points. En France, il se présente.
C'est lui qui l'avait tweeté
en 2012.
Qui donne du temps où il était chez l'Europe Écologie Les Verts. Oui, d'accord.
On a des messages où on le voit, des journalistes qui l'interpellent et qui lui disent à l'époque, et les militants, vous ne pensez pas que les victoires des Verts vont faire que certains vont prendre goût au luxe, et ils rigolent à gorge déployée en disant, le luxe, croyez-vous que vraiment c'est un sujet.
Cette prise de position vous rattrape finalement
donc,
par la suite.
Donc en fait, c'est plus ça, c'est l'incohérence et le fait qu'on ne peut pas donner des leçons, on ne peut pas, et puis depuis le début...
Effet boomerang, hein.
C'est un effet très fort, donc beaucoup de commentaires, évidemment énormément de blagues sur les homards et mais c'est surtout beaucoup de commentaires pour dire mais en fait on peut pas avoir deux discours, on peut pas donner des leçons et de l'autre côté ne pas être
ce qui est un peu la spécialité de ce nouveau monde, hein. Qui a passé du temps à donner des leçons, y compris dans la campagne, mais je pense d'ailleurs qu'une des raisons pour lesquelles il échappe aussi, enfin une démission aurait été totalement démesurée par rapport à cette petite affaire, hein. Mais une des raisons pour lesquelles il y échappe, c'est que Emmanuel Macron lui-même n'échappe pas à ses critiques. On sait très bien la manière dont il a mené sa propre campagne, dont il a construit sa candidature, c'était avec force dîner, alors sans doute pas aussi fastueux, mais en tout cas des dîners, un mélange public-privé, quand il était à Bercy. Ça a été abondamment raconté à l'époque, y compris d'ailleurs par ses colocataires, Eckert et Michel Sapin.
Romain Mouton, oui.
Un mot sur justement cette république qu'on voudrait idéale. Aujourd'hui, faisons l'inventaire, dans ce cas-là, de tous les dîners et de tout ce qui se passe dans l'ensemble des ministères, mais pas que dans les ministères, dans les préfectures, chez les hauts fonctionnaires, notamment au Sénat, à l'Assemblée nationale, etc. Et on s'apercevra déjà que c'est une pratique beaucoup plus courante qu'on l'imagine.
Ce qui est pointé par c'est le côté un peu répétitif et somptuaire.
Hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas déjà que François de Rugy qui reçoit. Ça fait partie du job de ministre, ça fait partie du job du président de l'Assemblée. Et par ailleurs, dans ce cas-là, si on veut passer à ce que disait Mathieu tout à l'heure sur les modèles un peu nordiques, etc., il faut que ce soit total le changement, c'est-à-dire dans les ministères, dans l'administration, au Sénat et à l'Assemblée nationale. On ne peut pas faire des micro-mesures à chaque petit scandale.
Tout le monde a la même règle. Oui, Mathieu Aron.
Oui, la démission aurait été bien excessive. Peut-être.
J'entends bien que vous ne souhaitez pas de démission autour de la table. Hein.
C'est-à-dire que moi, ce que je constate, c'est que dans bien des pays, M. de Rugy aurait été obligé de démissionner. Et si j'ose dire, il n'y a qu'en France où on se pose la question du fait que c'est normal qu'il n'ait pas démissionné. Au regard de comment fonctionne la politique française, je suis d'accord avec vous, Henri, il n'y a pas de raison qu'il démissionne plus qu'un autre. Au regard des principes qui animent un certain nombre de démocraties en Europe, M. de Rugy aurait probablement démissionné s'il avait été allemand, par exemple. Pour revenir juste sur l'argument que vous soulevez, oui, ça se passe peut-être dans beaucoup de ministères et dans beaucoup de préfectures.
C'est l'éternel argument, ce pays n'avancera jamais, l'argument.
Quand on se fait, entre guillemets, coincé par la patrouille, eh bien on se fait coincer par la patrouille, et c'est comme ça qu'arrivent les démissions et les scandales politiques. C'est toujours comme ça que ça arrive.
Je vais m'expliquer en quoi le quatrième personnage de l'État qui reçoit chez lui et qui reçoit à l'hôtel de Lassé des personnalités de la société civile est un péché. Enfin, honnêtement, je ne connais pas M. de Rugy et je ne suis pas son défenseur, mais je ne vois pas ce qu'il y a de choquant.
Alors, cette affaire va laisser évidemment des traces. Je vous propose d'écouter ce qu'en a dit, quelque peu embarrassé, la porte-parole de La République En Marche, Aurore Berger, c'était sur France Info.
C'est la déontologue de l'Assemblée qui doit pouvoir maintenant regarder la liste des invités, vérifier si c'est bien des invités légitimes pour le président de l'Assemblée nationale, comme des économistes, des chercheurs, des enseignants, des scientifiques, des journalistes, ou si c'était des amis privés. C'est des amis privés. Là, il y aura un problème. Et là, il y aura la nécessité, évidemment, que ce soit des frais qui soient remboursés.
Après, ça n'ira pas plus loin. Rembourser les frais, ça suffirait.
Mais je pense que déjà, on va vérifier la véracité des différents faits qui ont été pour l'instant exposés et qu'il faut le faire dans le calme. Et de la même manière qu'il ne faudrait pas qu'il y ait déni, je ne pourrais pas vous dire ce matin, il n'y a aucun sujet. Je pense qu'il ne faut pas non plus d'excès.
Alors, pas d'excès, dit Aurore Berger. Rembourser les frais et ce qu'a dit donc tout à l'heure François de Rugy, Mathieu Aron, c'est rembourser chaque euro contesté. Hein. Quand l'on dit ça, il y a peut-être une forme d'aveu de, je dirais pas culpabilité, mais quand même quelque chose de l'ordre du doute, finalement.
C'est-à-dire qu'en 24 heures, les choses ont un peu évolué entre la réponse qu'il a fait à nos confrères de Mediapart, où grosso modo, il disait « circuler, il n'y a rien à voir ». Là, on voit qu'il est obligé, sous la pression publique, de changer un petit peu de système de défense. Il n'empêche que ça va continuer à peser, cette histoire de
la machine ne va pas s'arrêter là.
Je crains que ça ne s'arrête pas tout à fait.
Oui, Romain Mouton, ça va pas s'arrêter. Hein.
Ah ben non, la machine médiatique est emballée là. Donc à partir de ce moment-là, et avec des symboles forts, et là du coup, ça va être un feuilleton. C'est-à-dire que j'espère pour lui qu'il a tout mis dans son post Facebook où il a expliqué ses réponses à Mediapart, parce que ça va être forcément feuilletonné comme toutes ces affaires. Et donc il faut vraiment qu'il mette tout, si j'étais son communicant, je dirais de mettre tout sur la table tout de suite, même les choses qu'il pense qu'on pourrait lui reprocher, pour ne pas que ça arrive dans les jours à venir. Parce que si ça arrive dans les jours à venir, ce sera pire que tout.
Henri Vernet.
Mais ce qu'il y a, c'est que fondamentalement, ce n'est pas un problème de communication. C'est un problème qu'il faudrait enfin que cette classe politique change de culture et de comportement. Mais en effet, peut-être pas que les politiques, nous tous, je suis totalement d'accord. Quand Mathieu parle de la Norvège, quand il parle de l'Allemagne. Mais le fait est que nous ne sommes pas les Norvégiens, nous ne sommes pas les Allemands, mais ça peut rester un modèle. Norvège, juste pour mémoire, moi j'ai été frappé dans ça remonte à loin. Mais enfin, un ministre qui avait négocié l'accord entre les Israéliens et les Palestiniens, les fameux accords d'Oslo, avait dû démissionner parce qu'il avait triché, il avait utilisé ses miles accumulés lors de ces négociations à titre personnel. Bon, voilà, on n'en est évidemment pas là, on en est très très loin. Maintenant, pourquoi je pense que ça aurait été un mauvais signal aussi, la démission, parce qu'en effet, ça mérite pas ça, cette histoire de Omar, mais également, ça aurait été mettre la barre très bas, alors que, étant donné les problèmes qu'affronte notre pays, ou également quand on a vu, par exemple, un ministre de l'intérieur confronté à une incapacité à assurer la paix dans les villes ou d'ailleurs enfin que ce soit des violences policières ou des violences de manifestants, là on est face à de vraies questions qui mériteraient un questionnement. Là
encore quelques mots,
c'est quand même bien inférieur.
Et puis excusez-moi Jean-François, mais bouton, c'est sûr que pour Emmanuel Macron, ça veut dire que s'il donne le signal qu'un ministre va démissionner pour des repas, ça veut dire qu'en interne toute la machine va essayer de sortir les notes de frais de tous les ministères de tous les repas pour faire tomber un gouvernement. Donc
le mot démission sur les réseaux sociaux, non.
Oui, il y a bien sûr Rugy-Gate, il y a bien sûr Rugy démission, mais quand je regarde le volume juste de Rugy démission, non, c'est pas du tout le plus important dans l'ensemble des discussions. C'est toujours une histoire d'alignement, de mesures, de privé-public, de promesses tenues, de cohérence, voilà. Mais c'est... Non, les Français eux-mêmes sont pas forcément aussi exigeants sur le niveau d'engagement et on va dire que les miles, plus d'un Français, sans doute, à sa façon, utilise aussi ce genre de système. Donc, c'est pas ça.
Non, mais dans notre pays,
tous autour de l'État, probablement, nous utilisons des systèmes. La seule différence, c'est que nous ne sommes ni ministre de l'Environnement,
c'est juste pour dire que la notion
ni auparavant
elle
président de l'Assemblée nationale.
Requise. Bon, c'est un sujet
de transparence. Un certain nombre d'obligations.
Et notre exigence vis-à-vis de nos politiques est bien moindre qu'elle l'est, en effet, dans des pays démocratiquement beaucoup plus matures que sont l'Allemagne, que sont les pays scandinaves.
Et nous verrons bien demain si cette affaire, au fond, agite toujours l'opinion publique. Allez, 20h20, rappel de l'info sur France Info, dans les informés avec vous, Solène Cressant.
Après 10 semaines d'audience, le procès France Télécom s'est terminé cet après-midi. Le jugement sera rendu le 20 décembre pour l'entreprise et ses ex-dirigeants. Ils comparaissent pour harcèlement moral. À la fin des plaidoiries, la présidente a pris la parole d'une manière totalement inhabituelle. Elle a tenu à saluer le travail et l'attitude des parties civiles, des prévenus, mais aussi des journalistes pendant l'audience. Un maintien sous condition pour François de Rugy. Après les révélations de Mediapart sur les dîners fastueux et privés organisés à l'Assemblée nationale, Matignon annonce une enquête, une inspection sur les travaux dans son logement de fonction. L'ancien président de l'Assemblée nationale s'engage, lui, à rembourser chaque euro contesté. Un obstacle levé pour la création d'Europa City. La justice valide en appel l'implantation de cette immense zone d'aménagement controversée avec des commerces mais aussi des loisirs comme une piste de ski artificielle au nord de Paris, à Gonesse. Plusieurs associations dénoncent un projet à rebours des principes environnementaux. Après la mort de Vincent Lambert, le procureur annonce l'ouverture d'une enquête en recherche des causes de la mort. Il veut qu'elle soit la plus neutre possible. Une autopsie a lieu demain à Paris. Le corps sera restitué à sa femme vendredi. 88,1% des candidats ont décroché leur précieux sésame, le bac. Les résultats définitifs sont tombés ce soir. C'est un peu moins bien que l'année dernière, moins 0,2 points. Des résultats alors que 69% des Français estiment que les professeurs grévistes ont eu tort de retenir les copies, selon un sondage Odoxa Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro.
France Info. 20h, 21h, les informés. Jean-François Aquili.
Voilà, Solène Cressant qui évoquait à l'instant l'affaire Vincent Lambert qui se poursuit donc au-delà de la mort de Vincent Lambert sur le terrain judiciaire désormais. Je vous propose de réécouter ce qu'a dit François Lambert, le neveu lui qui réclamait l'arrêt des traitements, qui s'est dit soulagé lors d'une conférence de presse.
C'est un soulagement évidemment, c'est pas triste, les gens me disent toutes nos condoléances, mais ou courage ou moment difficile, mais en fait non, c'est pas, ça remet les choses dans l'ordre en fait. C'était ce qu'on attendait depuis des années, on y était prêt depuis des années, Là, c'est un peu le rationnel qui prend le dessus, finalement. On redevient dans quelque chose de rationnel. Vincent, il était en état végétatif, il n'aurait pas voulu vivre comme ça. Par respect pour lui, il fallait arrêter de le maintenir en vie dans cet état. Et maintenant, il n'est plus maintenu en vie dans cet état. Et il a pu partir dans les meilleures conditions possibles à l'heure actuelle, mais il a quand même pu partir. Et là, j'espère qu'il repose en paix.
Soulagement, certes, hein, Henri Vernet, mais cette affaire va se poursuivre, finalement, sur un autre terrain.
Oui, bah, bien sûr, parce qu'elle a posé un vrai débat, un débat sur la fin de vie, comment... alors, bien sûr, la loi Leonetti-Claes a fait évoluer les choses, mais enfin, on voit qu'elle n'est pas suffisante. Tout à l'heure, sur les ondes de vos cousins ou frères de France Inter, j'entendais un témoignage absolument poignant, très très fort et très très dur, sur quelqu'un qui racontait comment se passe très concrètement la fin de vie dans ces cas-là. Ce sont des agonies quand même extrêmement pénibles. Extrêmement, enfin voilà, quoi, c'est, et puis en plus on est dans l'ordre de l'intime, quoi, le choix le plus intime de chacun, sa confrontation, c'est une question de vie et de mort. Mais en effet, le débat maintenant dans la société, c'est vrai qu'on voit qu'il y a là un manque dans notre société, qu'il faut aborder ce, la question de l'euthanasie, de la fin de vie n'est pas totalement réglée, elle est rouverte.
Mathieu Aron, que risquent les médecins quand l'on entend, hein, le procureur parler d'analyse toxicologique, d'auditions diverses, de saisie du dossier médical en vue d'expertise? C'est la procédure, j'imagine, mais est-ce qu'il peut y avoir quelque chose d'autre qui arrive demain?
C'est fort peu probable. Hein. Là, on est dans une procédure normale, classique, compte tenu de l'importance qu'a pris cet événement. Il serait quand même très curieux que, compte tenu du nombre d'avis médicaux qu'il y a eu sur ce dossier, l'autopsie de Vincent Lambert permette de découvrir autre chose. Non, on est dans une procédure normale pour fermer la phase judiciaire, si vous voulez. Après, ce qui est troublant dans cette affaire, c'est que, en fait, que souhaitait Vincent Lambert? C'est ça la vraie question. Parce que on a vu que sa famille était divisée sur le sujet, même si le Conseil d'État a retenu les témoignages de sa femme et de l'un de ses neveux, si je ne me trompe pas, qui précisait que Vincent Lambert aurait souhaité partir plus tôt et ne pas être maintenu artificiellement en vie.
Vous voulez dire qu'on ne le sera jamais?
Non, on ne le sera jamais, mais réellement, au-delà du cas de Vincent Lambert, le problème que ça pose, c'est que ça nous interpelle tous sur quelle trace doit-on laisser. Et on sait que la loi Leonetti permet un certain nombre de choses, hein, et permet de dire, avant d'être confronté à ce genre de difficultés, ce qu'on souhaite faire.
C'est le problème des directives anticipées. Écoutez ce qu'on a dit, justement, vous allez réagir hein, aussi là-dessus, ce qu'on a dit l'ancien président de la République, François Hollande, au micro de France Bleu La Rochelle.
Le problème, c'est que la loi n'a pas pu s'appliquer. Donc ce que moi je peux dire, et c'est peut-être un message qu'il faut envoyer à chacun, et en commençant par soi-même, c'est que nous devons tous rédiger des directives anticipées. La loi, elle est faite pour ça. En Belgique, par exemple, les directives anticipées, c'est une procédure que chacun et chacune fait. Eh bien, en France, c'est la même chose. Si on ne veut pas revoir des situations aussi dramatiques, il faut que l'on applique la loi. La loi, c'est ce qui permet justement de trouver un chemin qui est toujours difficile pour la fin de vie, mais qui permet de faire comprendre à la famille quelle est la volonté de celui ou de celle qui, à un moment, n'en peut plus ou ne veut plus.
Mais l'ancien président François Hollande qui répond à ce que vous disiez, Mathieu Aron, Romain Mouton, les directives anticipées, le débat va s'imposer assez rapidement chez nous aussi. Hein.
Oui, alors est-ce que agir sous l'émotion, c'est bien de le faire là, mais il faut que le débat s'installe durablement. Le sujet de la mort reste de toute façon tabou et cette directive de fin de vie sera compliquée à mettre en place si les pouvoirs publics ne s'en saisissent pas et n'en parlent pas régulièrement. L'affaire Vincent Lambert, pour revenir rapidement, ça a été surtout l'affaire médiatique d'un conflit familial qui est devenu un symbole. Et aujourd'hui, il y a des dizaines, des centaines de familles qui vivent cette situation dans le silence et en toute discrétion et qui vivent aussi des fins de vie de proches volontaires. Donc il ne faut pas non plus généraliser à l'ensemble de la société.
Il nous reste très peu de temps avant la pause là-dessus, ouais, Véronique Rensoul, d'émotion nationale quand même. Hein.
Ouais, sur l'émotion nationale, il y a quelque chose qui était très intéressant aujourd'hui. C'était que quand on regardait les messages, il y a eu beaucoup, beaucoup de commentaires. Il y avait quand même deux camps et il y avait un sujet aussi du religieux. Et aujourd'hui, dans l'ensemble des messages, étonnamment, le religieux n'était plus tellement là. C'était vraiment un sujet sur la douleur, l'accompagnement. Et il y a un signe qui ne trompe pas. Le pape a tweeté ce matin un message dans toutes les langues. Les deux langues qui ont été le plus reprises, c'est l'espagnol et l'anglais. Et en France, il y a à peine 1000 interactions sur le message du pape. Donc on voit bien que, en fait, l'émotion, elle a amené sur... finalement, un autre débat qui est le débat de la fin de vie et de la dignité et, de, et du choix, enfin, de la trace laissée. Comme.
Mathieu Aron.
En sachant, pour préciser, si je ne me trompe pas, les dispositions législatives existent aujourd'hui. Oui. Elles ont déjà été adoptées. Il est possible de laisser
pas
en
sur le mode
sorte.
De donner à la fin de vie. C'est bien non, le débat dont je faisais référence tout à l'heure. Je veux dire que c'est une agonie qui est longue et pénible.
C'est possible. Le problème, c'est que Vincent Lambert ne l'avait pas fait.
C'est pas le seul problème.
Nous marquons une pause. Il est 20h, pardonnez-moi, 20h et 28 minutes sur France Info. Marquons une pause. On retrouve les informés dans la deuxième partie. Dans quelques minutes, c'est promis. À tout de suite.
S'il fait chaud, on aime se calfeutrer à l'intérieur, volets fermés. Mais l'air intérieur peut être pollué jusqu'à 5 fois plus qu'à l'extérieur. Alors procurez-vous un ventilateur purificateur Dyson PureCool. Il vous rafraîchira avec de l'air purifié, en éliminant plus de 99% des particules aussi fines que les virus, pour que vous ne les respiriez pas chez vous. Dyson PureCool. Ventile un air purifié, pas un air pollué. Pour en savoir plus, visitez Dyson.fr. Testé par l'Institut Pasteur de Lille sur le virus H1N1 en septembre 2018.
Salut, c'est Bruno Solo. Vous savez, cette année, le 14 juillet est différent des autres, car Lino Ventura aurait eu 100 ans. Alors ensemble, poursuivons son combat pour Personnage et les personnes en situation de handicap. Pas question de se défiler. Pour la Fondation Personnage, on se bleu, blanc, bouge. Tous. Rendez-vous sur personnage.org.
France Info Météo, avec le CIC, banque numéro 1 au podium de la relation client 2019. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Les prévisions météo avec vous, Élodie Calac pour Météo France.
Nuages et éclaircies demain, une dégradation concernera le nord-ouest et le nord de la Seine le matin, avec parfois quelques gouttes. L'après-midi, c'est près des frontières du nord qu'on retrouvera ces nuages avec des averses. Partout ailleurs, le ciel sera partagé entre nuages et soleil, un soleil plus généreux en allant vers le sud. Le vent sera parfois marqué entre le Roussillon, le Var, la Corse, des pointes jusqu'à 70 km à l'heure. Côté thermomètre, peu d'évolution, souvent 13 à 19 degrés le matin, jusqu'à 22 près de la Méditerranée. L'après-midi, 21 à 24 degrés près de la Manche, 24 à 29 sur les autres régions du Nord. Il fera plus chaud dans le Sud, 28 à 33 degrés et jusqu'à 35 à 36 pour le Sud-Est.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
h 30 sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir mon cher Thomas Bénèche.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. L'arrêt de ces traitements avait débuté en début de semaine dernière, plus de 8 jours après. Vincent Lambert est mort ce matin au CHU de Reims, là où l'ancien infirmier était hospitalisé. Il se trouvait dans un état végétatif depuis un accident de la route en 2008. Son état de santé a déchiré sa famille. Aujourd'hui, le procureur de Reims annonce le lancement d'une enquête avec un objectif bien précis, Sylvie Charbonnier.
Et ce qu'il veut, il l'a dit, c'est éviter toute supputation après le décès de Vincent Lambert. Il a bien précisé qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une enquête pénale. Ce que veut Mathieu Bourrette, c'est juste une enquête en recherche des causes de la mort. Et c'est donc la raison pour laquelle il a demandé qu'une autopsie soit pratiquée afin d'éviter que, suite à une plainte, il faille exhumer le corps. Dans le même souci de clarté, il a demandé que l'autopsie soit pratiquée non pas à Reims, mais à l'Institut médico-légal de Paris, par deux médecins légistes expérimentés. Demandé également des examens toxicologiques afin de savoir quels produits ont été utilisés dans les derniers jours et les dernières heures. De même, les personnels devront être entendus et le matériel utilisé saisi pour analyse. Enfin, le procureur de la République de Reims a rappelé qu'aucune enquête n'avait été ouverte contre le docteur Vincent Sanchez, contrairement à ce qu'avaient demandé les parents de Vincent Lambert.
Sylvie Charbonnier du service police-justice de France Info. Le procureur de Mont-de-Marsan dans les Landes annonce ce jeudi l'interpellation d'au moins 2 suspects après la mort d'une jeune femme de 24 ans dans la ville. Il n'en dit pas plus sur le nombre exact de gardés à vue dans ce dossier. La victime, elle, a été retrouvée dimanche dans un tunnel sous une voie ferrée. Elle rentrait à pied d'une soirée en discothèque. Malgré la tempête et les critiques suscitées par les révélations sur son train de vie, François de Rugy reste ministre de la Transition écologique. Il s'est entretenu en fin d'après-midi avec le Premier ministre. À l'issue, Matignon lance une enquête sur les travaux à 63 000 euros réalisés au logement de fonction de François de Rugy. L'intéressé lui s'engage à rembourser tout euro contesté dans le cadre de ses dîners fastueux organisés à l'époque où il l'était au perchoir. Le mathématicien et député LREM Cédric Villani fera connaître ses intentions début septembre. Chez nos confrères de BFM TV, il indique vouloir avant cela discuter avec ses militants. Hier, la commission nationale d'investiture de son parti l'a écarté de la course au municipal 2020 à Paris. La taxe sur les géants du net, dite GAFA, fait des émules. Adoptée définitivement ce jeudi par le Parlement français, le Trésor britannique présente ce jeudi à son tour un texte équivalent. Outre-Manche, cette taxe pourrait s'élever à 2%. Elle visera réseaux sociaux, moteurs de recherche. Washington va lancer de son côté une enquête sur la taxe GAFA française qu'elle juge injuste pour ses entreprises telles que Google. Enfin, le tennis à Wimbledon. La finale dames opposera l'américaine Serena Williams à la roumaine Simona Halep. Le match se jouera samedi à 15h. 20h33, l'heure de retrouver les informés.
France Info, les informés, Jean-François Aquili.
Avec Véronique Relsoult, directrice générale de Dentsu Consulting. Vous allez bosser là. Avec Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien aujourd'hui en France. Avec Mathieu Aron, grand reporter et conseiller éditorial à l'Obs. Et Romain Mouton, communicant fondateur de l'agence RM Conseil. C'est un résultat donc sans appel. Après la grève des correcteurs du baccalauréat, les Français désavouent les grévistes et demandent des sanctions. Selon notre enquête au Doxa, Dentsu Consulting pour France Info, Le Figaro, réalisé en ligne hier et aujourd'hui auprès d'un millier de personnes. Voici Céline Braque, la directrice générale de Doxa.
On a 69% des Français qui estiment que les correcteurs qui ont fait la grève de la copie, eh bien, ils ont eu tort en retenant ces copies, car ils ont pénalisé les bacheliers, quand 31%, donc une minorité, trouvent qu'ils ont eu raison, car ils n'avaient aucun autre moyen de se faire entendre. C'est une condamnation qui est quasiment unanime au sein de toutes les catégories de Français, à part politiquement une catégorie qui soutient très clairement les grévistes, ce sont les sympathisants de la France insoumise, hein, ils sont les deux tiers à donner raison aux grévistes. Toutes les autres catégories sont d'accord, et un petit peu moins les jeunes, qui sont un peu plus concernés ou qui l'ont été il n'y a pas si longtemps, qui eux sont un peu plus nombreux à les soutenir, mais majoritairement, c'est une condamnation de cette méthode.
Véronique Relsoult, c'est sévère tout de même, 69%, assez peu d'indulgence finalement à l'endroit des correcteurs qui étaient en grève.
Non, peu d'indulgence, d'abord parce que...
Comment l'expliquer?
En fait, en réalité, ce sujet, il concerne les gens qui passaient le bac cette année et ceux qui vont passer l'année prochaine. Donc, pas finalement tant de gens que ça. Et globalement, c'est le sentiment que, voilà, il y avait une forme de chantage. Et ce qu'on lisait surtout, c'est que, pourquoi pas sur le fond, en tout cas, les gens se posent des questions sur la réforme, c'est évident. Mais sur la forme, non. C'est pas les élèves qui devaient être sanctionnés de la réalité.
Ça, c'est communément admis, hein, par c'est ce que révèle cette enquête. Hein.
Par tous les Français, quelles que soient les catégories, quels que soient les âges, globalement, on a le droit d'exprimer des inquiétudes, on a le droit d'avoir un conflit, on a le droit de faire grève, mais pourquoi faire ça en punissant ceux qui, dans le fond, n'y sont pas pour grand-chose, sachant qu'il y avait une petite polémique dans la polémique qui était l'expression prise en otage. On voit bien que les gens ne cautionnaient pas non plus cette notion-là, c'était plus la notion de chantage, et puis on voyait beaucoup de témoignages de jeunes qui disaient « mais non, je suis déjà overstressé, pourquoi est-ce que vous me rajoutez ça ?» C'est pas possible.
L'autre
pas
résultat
maintenant.
Est significatif. Hein, 61% des personnes estiment que les sanctions financières et disciplinaires sont justifiées.
C'est-à-dire qu'on sait, les professeurs ont quand même égratigné un totem. Le bac, c'est un totem. Alors certes, là, ça concerne une à deux générations, mais on est quand même très nombreux à avoir passé le bac. On est quand même très très nombreux à avoir beaucoup angoissé à ce moment-là. Et on s'est tous quelque part mis à la place de ces bacheliers en se disant « Mon Dieu !» Et en plus, ils ne savent pas si les professeurs vont pas retenir leur copie. Qu'est-ce que moi, j'aurais pensé à ce moment-là si ça m'était arrivé? C'est ça, à mon avis, qui explique la réaction des gens.
De projection.
Et pas un avis quelconque sur le bien fondé ou le non bien fondé des revendications des professeurs. C'est vraiment du côté, à mon avis, de l'émotion des gens qui disent « C'est pas possible, pas le bac !»
On avait même regardé, finalement, est-ce que les Français trouvent que le bac est important? Oui, à 64%. Ils disent que c'est... Voilà, on peut réussir sa vie sans bac à 64%.
Précis, hein, 64%.
On peut réussir sa vie sans bac. Mais 78% des Français disent c'est vraiment très important, voire même pour 62%, c'est un marqueur social. Donc on va
62% dire, marqueur social.
Oui, c'est important.
Donc c'est une institution.
C'est une institution et on touche pas aux institutions.
Touche pas au bac, Henri Vernet, c'est ça hein, l'idée.
Ah ben oui, vraiment. Mais ça, on le voit à chaque tentative de réforme, c'est vraiment le sujet qui mobilise le plus. Et c'est normal, c'est un diplôme. Oui, c'est ça, c'est l'entrée. C'est l'entrée comment dire, c'est le côté initiatique, c'est l'entrée dans la vie active, dans la vie adulte surtout, plus que
il y a un côté sanctuaire donc, peut-être, non ?
Oui, bien sûr. Oui, mais c'est pas. Alors, autant il faut réformer, il faut toiletter, il faut dépoussiérer la France, etc. C'est clairement évident. Mais enfin, il y a quand même quelques éléments, quelques sanctuaires, quelques totems, comme disait Mathieu Aron, qu'il faut, oui, qu'on peut garder parce que sans doute qu'ils en valent la peine. Et là, la méthode était des plus déplorables. Autant on peut regretter encore une fois que à chaque fois il faille en arriver au conflit dans notre pays pour faire avancer quelque chose, pour réformer tout simplement. On peut discuter des réformes, on peut discuter de bien des choses, mais cette méthode-là, cette brutalité...
Vous dites brutalité, vous trouvez que ça allait trop loin.
Ah mais oui, mais encore une fois, on a parlé du stress, c'est vrai, on a tous passé le bac, la plupart d'entre nous ont des enfants, on s'est projeté là-dedans. Oui, c'était brutal par rapport à ce stress qui existe à ce moment-là.
Romain Mouton, vous, le communicant de l'État, vous pensez que c'était peut-être pas la bonne méthode pour faire entendre ces revendications.
Du coup, on ne sait même pas pourquoi ils ont pris en otage les lycéens. Il n'y a que les initiés qui suivent le dossier qui savent. Honnêtement, je doute que les Français, que le message des professeurs soit passé.
Parce qu'il y avait trop d'émotions autour de l'angoisse des élèves.
C'est inaudible. Oui. Pour faire passer un message, il faut un canal clair, et il faut un contexte, un cadre, et il faut trouver le bon moment. Là, très clairement, c'est c'est faux pas sur toute la ligne. Et le grand gagnant, ben voilà, il est derrière vous en photo, c'est Jean-Michel Blanquer. Parce que lui, dans cette histoire, il va réussir, et à juste titre pour ceux qui soutiennent sa réforme, à faire passer ses réformes, et il va apparaître comme le bon élève, pendant que les profs sont désormais les mauvais élèves.
Véronique Rel-Soult, 63% allez-y, des Français.
Des Français trouvent que la solution proposée par Jean-Michel...
Ben voilà. C'est-à-dire la solution donc pour remplacer les notes manquantes était considérée comme la bonne,
c'est ça ? La bonne solution, pour 63%. Après, fondamentalement, son image aussi, quand on regarde sur les réseaux,
parce qu'on a dit pendant le conflit, Véronique Rel-Soult, on a dit pendant le conflit que peut-être qu'il y avait une image d'une trop grande fermeté, de dureté du ministre de l'Éducation. On s'est posé la question, est-ce que lui qui était présenté comme premier ministrable les deux premières années, a-t-il perdu des plumes dans ce conflit ?
Non, alors la question, elle portait sur est-ce que la solution proposée était la bonne solution ? Oui. Après, est-ce que, quand on regarde ce qui se disait pendant le conflit, les gens trouvaient que quand même, il avait sans doute un peu avait mis un peu d'huile sur le feu et avait un peu énervé les enseignants dans la façon de formuler les choses. Pour autant, ça n'abîme pas du tout son image, loin de là. On voit que les Français sont plutôt d'accord. Et ensuite, il est vu comme un expert qui maîtrise le sujet. Donc, un expert qui maîtrise le sujet a le droit, par moment, d'avoir des propos un peu plus durs que d'autres.
On va marquer une pause. On va dire encore quelques mots sur ce baccalauréat et cette enquête. Odoxa, Dansou, Consulting, France Info, Le Figaro. Juste après, le 20h40 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Solène Cressan.
Une enquête en recherche des causes de la mort ouverte après le décès de Vincent Lambert ce matin. L'autopsie sera pratiquée demain à Paris. Elle est indispensable, estime le procureur de la République de Reims, pour vérifier que l'arrêt des traitements a respecté la loi. L'avocat de la femme de Vincent Lambert dénonce, lui, sur France Info, une grave erreur de notre justice. Il ne veut laisser aucun doute. François de Rugy s'engage à rembourser chaque euro contesté. Le ministre de l'écologie est bien maintenu en poste au sein du gouvernement, avec certaines conditions, après les révélations de Mediapart sur les dîners privés avec les moyens de l'Assemblée nationale. Matignon demande aussi une enquête sur les travaux de son logement de fonction. Le capitaine et un officier du pétrolier iranien bloqué à Gibraltar depuis une semaine viennent d'être arrêtés. Les autorités britanniques soupçonnent le navire de transporter du pétrole à destination de la Syrie en violation de sanctions internationales. Téhéran, de son côté, dément. Au moins deux suspects interpellés dans l'affaire du meurtre de Johanna Blan à Mont-de-Marsan. Le corps de la jeune femme de 24 ans a été retrouvé dimanche dans un tunnel pour piétons sous une voie SNCF. L'autopsie a révélé des traces de strangulation. Et puis sur le Tour de France, Julien Alaphilippe a perdu son maillot jaune dans la première étape de montagne. Il revient à l'italien Giulio Ciccone. Le vainqueur de l'étape, c'est le belge Dylan Teuns.
France Info.
20h, 21h. Les informés, Jean-François Aquili.
Encore quelques mots sur cette enquête sur le bac, hein, enfin les couacs du bac. Henri Vernet, Jean-Michel Blanquer ressort renforcé de cet exercice, cet épisode, on va dire.
Conforté par l'avis des Français, oui, renforcé. Moi, je trouve qu'il faut qu'ils se méfient. Encore une fois, il faut vraiment trouver, encourager dans notre société la pratique du dialogue, de l'écoute.
Il y a bien ce un qui moment où le ministre va devoir dialoguer avec les enseignants
mécontents. Exactement, et qui se mettent à l'écoute. Et c'est ce qui fait défaut quand même à ce gouvernement, à cette équipe. C'est une faible capacité d'écoute, de concertation dans quelques domaines que ce soit. Donc, puisqu'on est dans le domaine des mentions, là où peut mieux faire et même doit mieux faire, c'est vraiment là-dedans. Et ça, bon, et ça, dans ce domaine-là, ça vaut en priorité. Pour Blanquer, juste un mot, il se trouve que j'anticipe un peu sur la fin de l'émission, c'est vrai quand vous nous demandez les unes, demain on l'a en interview, hein, Jean-Michel Blanquer.
Vous avez Jean-Michel Blanquer dans le Parisien aujourd'hui
en France. Dans le Parisien demain, et de quoi parle-t-il? Il parle de sacrilège, vous voyez, quand on disait employer les mots totem, sacre, initiatique, etc., ben voilà, lui évoque cet épisode en parlant de sacrilège.
Allez, il n'empêche que cette réforme, elle sera faite par les enseignants eux-mêmes.
Bien sûr.
C'est qu'il y a eux qui vont effectivement adopter
les
nouveaux textes.
Et
donc voilà, il y a un moment, il faut aussi savoir discuter.
Voilà, cette enquête, donc, Odoxa Dentsu Consulting, France Info, Le Figaro à relire, à découvrir, en tous les cas, sur franceinfo.fr. Mais à quoi joue donc Cédric Villani, le député de l'Essonne, vous le savez, candidat malheureux à l'investiture de La République En Marche pour les municipales parisiennes, eh bien, ne se prononcera pas sur un soutien à Benjamin Griveaux avant septembre. Il se laisse donc l'été pour la réflexion, mais quelle réflexion! Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, soutient de Benjamin Griveaux, y voit un moment de déception.
Je comprends qu'il y ait une déception. Quand vous vous engagez pour être candidat, même dans une élection interne, vous mettez de l'énergie, vous avez des soutiens, vous engagez du temps, vous avez un espoir. Et quand vous n'êtes pas choisi par les instants, je comprends tout à fait qu'il y ait besoin d'un temps pour digérer cette nouvelle et se mettre dans une autre perspective. Mais maintenant, je crois que Cédric Villani, c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent et raisonnable et qui est motivé pour faire en sorte qu'il y ait une alternance pour Paris. C'est ce qu'il a dit et c'était le sens de son engagement en tout cas. Donc je ne peux pas imaginer qu'il ne soutienne pas Benjamin Griveaux.
Voilà, Marlène Schiappa sur France Info. Romain Mouton, Cédric Villani, en se donnant le temps de l'été, hein, pour consulter, je cite, hein, je lis, son entourage et ses amis, il va énerver tout le monde.
Il va énerver tout le monde. Cédric Villani, de toute façon, est un homme à part. C'est pas un politique comme les autres. C'est un scientifique. Il est arrivé en politique sur le tard. On ne peut pas demander à Cédric Villani d'adopter les codes de la vieille politique traditionnelle, de se ranger
comme
des petits pois derrière un candidat. Moi, je trouve ça très bien. Très bien parce que c'est original, c'est disruptif. Je trouve que la réaction de Marlène Schiappa est bonne et elle a bien compris la psychologie de Villani parce qu'il y en a d'autres à La République En Marche qui, dès ce soir, étaient en mode soit en on, soit en off. Oui, de toute façon, c'est soit il soutient tout de suite, soit on va le virer de La République En Marche. Mmh. Ce qui est juste un peu pathétique.
Alain Richard était assez ferme hier soir. Hein. Là, c'était la sortie de la Commission nationale d'investiture.
Oui, mais c'est un peu pathétique. C'est ceux qui n'ont pas compris que la politique avait changé et que La République En Marche, c'est censé être des nouvelles méthodes politiques. C'est censé être disruptif. Laisser décanter la situation de Cédric Villani, ça ne voudra pas dire qu'il va soutenir Benjamin Griveaux. Et je pense que le feuilleton parisien va être palpitant dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, le Villani ne ferait que le renforcer. Oui. Donc ce sera certainement pas malin.
Alors Henri Vernet, est-ce que nous sommes dans une sorte de micro-feuilleton, on va dire, qui n'intéresse que les Parisiens aient encore, et finalement c'est assez anecdotique, ou il y a quand même quelque chose de l'ordre de la révélation d'un dysfonctionnement au sein de la majorité?
C'est plutôt la deuxième option. Oui, il y a un dysfonctionnement. Mais d'ailleurs, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Romain Mouton, mais pour être totalement disruptif, ce nouveau monde-là, tout simplement, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû introniser candidat Cédric Villani. C'était ça, la nouvelle politique. C'était ça qui aurait pu donner du souffle à une élection, qui quand même, en effet, qui est capitale, sans jeu de mots. C'est vrai que là, on a choisi les bonnes vieilles méthodes. Et d'ailleurs, Alain Richard, hier, qui brandit le bâton, sans lui faire offense, c'est pas exactement un homme. Il parle comme si on sortait d'un congrès d'Épinay il y a 40 ans, même plus. Donc non, aujourd'hui, en effet, la politique se fait différemment. Les Français l'ont assez montré. Les Parisiens, j'imagine, l'ont montré. Parce que là, le départ en campagne de La République En Marche sur Paris est juste calamiteux. Au moment où ils étaient quand même portés, alors bien sûr, les européennes ne sont pas des élections à part, mais enfin, quand on fait une lecture du résultat des dernières élections sur Paris, on se disait disait qu'il y avait vraiment un coup à jouer.
Oui, c'est Paris Renaissance. Hein, mais tout le monde
voilà,
majoritairement a voté Macron.
C'est un gros score. Et bon, surtout à droite, parmi les ex-électeurs de droite. Mais quand même, il y avait vraiment une opportunité extraordinaire que là, ils sont en train de gâcher. Je pense que s'ils avaient joué le coup Villani, eh bien, il y avait vraiment un, comment dire, un départ qui aurait été plus dynamique.
Véronique Reilsoult, il séduit Cédric Villani de par sa personnalité assez iconoclaste. Hein.
Il étonne. Il étonne clairement. Séduire, on peut pas encore dire, mais en tout cas, il étonne. Ce qui était assez amusant pour répondre à la question sur est-ce que ce sont les Parisiens, quand on regarde les messages, on peut regarder en géolocalisation.
Est-ce que ça n'intéresse que les gens, les habitants de la capitale?
Alors en fait, le sujet de la nomination à Paris, oui, plutôt. Mais quand on regarde depuis, le sujet Villani dépasse largement le sujet Griveaux. Quand c'est Griveaux, on parle de lui à Paris, et quand on parle de Villani, on parle de lui nationalement. Et l'autre point dont on a beaucoup plus parlé finalement, c'était les propos effectivement hier de Alain Richard qui ont été très commentés, énormément commentés. Le fait qu'ils disent ben voilà c'est comme ça et puis s'il est pas content il sort. globalement les internautes n'ont pas compris et ça a renforcé le capital curiosité sur Monsieur Villani qui n'est pas si connu que ça. Donc il étonne, c'est un mathématicien, enfin, il a plein de raisons qui fait que finalement il y a un effet curiosité, étonnement, adhésion, et je sais pas, mais en tout cas pour le moment clairement, voilà, il y a un moment pour lui, et puis la notion de résilience qu'évoquait Madame Schiappa.
Marlène Schiappa, oui.
Les internautes le comprennent en disant, comme vous le disiez, il y a un moment quand on s'est investi, on peut comprendre qu'on a besoin d'un petit peu de temps sans se faire gronder, si on n'a pas tout de suite été bien aligné.
Alors je rassure ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent sur France Info, nous avions ce matin Christian Estrosi, le maire de Nice, nous parlons de Lyon, nous parlons de Marseille, nous parlons de ce qui se passe dans toute la France, mais sur ce qui concerne Paris, Mathieu Aron, il y a un petit côté, souvenez-vous, machine à perdre. Il y a quelque chose de l'ordre de quelque chose qui déraille, comme c'est déjà arrivé à Paris. Hein.
Oui, et ce qui est assez curieux, c'est que finalement, comme le disait Henri Vernet, c'est de la très vieille politique. Un comité d'investiture qui a l'unanimité. Donc on se dit qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de discussions, nomme le candidat qui était annoncé comme celui qui allait gagner et qui avait le soutien du président de la République, ça fait penser à ce qui se passe depuis 25 ou 30 ans ou 40 ans dans la politique française. Et en face, on a Cédric Villani, qui je crois est un personnage qui a une certaine... alors effectivement, c'est peut-être un peu tôt pour le mesurer, mais une forme de popularité au sein de la population. Pourquoi ? Parce que cet esprit brillant, que tout le monde reconnaît comme brillant, mathématicien, a décidé de se lancer en politique. Et dans son engagement en politique, on sent qu'il y a quelque chose de sincère. Les gens se disent, finalement, cet homme qui était reconnu mondialement dans sa spécialité, il décide de faire la politique.
Il n'est pas décalé.
Donc, il y avait probablement un coup à jouer avec lui à Paris. Parce qu'en face, il y a une candidate qui est Anne Hidalgo, qui malgré les nombreuses critiques qu'elle reçoit tous les jours, est quand même assez solidement installée, et ce sera pas simple du tout comme bataille électorale.
Hein. Alors on va en parler dans un instant justement, 20h50, tout d'abord rappel de l'info avec vous sur France Info, Solène Cresson.
Les Français désavouent les correcteurs grévistes du bac. 69% estiment qu'ils ont eu tort de retenir les copies car ils ont pénalisé les bacheliers. Selon un sondage Odoxa d'Ensu Consulting pour France Info et Le Figaro publié ce soir, une enquête alors que le taux de réussite de cette session est de 88,1%, c'est 0,2 points de moins que l'année dernière. Le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, continue de réclamer sa démission sur France Info, mais François de Rugy est bien maintenu à son poste au sein du gouvernement. Le ministre de la Transition écologique a vu le Premier ministre cet après-midi après les révélations de Mediapart sur des dîners privés aux frais de l'Assemblée nationale. Les investigations sur les enfants nés sans bras dans le Morbihan vont se poursuivre. Pour les enfants de Loire-Atlantique, l'enquête va débuter. Les autorités sanitaires ont présenté leurs conclusions aux familles cet après-midi. En revanche, pas plus de recherches dans l'Ain pour cause d'absence d'excès de cas. Les serres chauffées seront bien autorisées pour produire du bio. Le Comité national de l'agriculture bio a tranché après des mois de débats, mais l'utilisation sera encadrée. Pas de tomates bio à Noël, par exemple. La commercialisation des fruits et légumes bio français sera interdite du 21 décembre au 30 avril. Et puis l'ONU appelle à ne pas pénaliser les navires humanitaires qui portent secours aux migrants en Méditerranée. Les Nations Unies soulignent le rôle crucial de ces bateaux d'ONG alors que l'Italie leur a fermé ses ports et les considère comme des complices de passeurs.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Mathieu Aron évoquait à l'instant Anne Hidalgo, la maire de Paris, solidement implantée comme vous le rappeliez. Écoutez ce qu'a dit ce matin Patrick Kanner, il est le président du groupe socialiste au Sénat, c'était chez nos confrères de Public Sénat.
C'est aussi le mode de fonctionnement du Nouveau Monde, en l'occurrence d'En Marche, qui peut être extrêmement utile à Anne Hidalgo, qui elle est transparente, dont on sait parfaitement quel est le programme, parfois contesté, en tout cas par des Parisiens qui se sentent gênés par les travaux ou par la circulation dans cette ville de Paris. Elle a un cap. Elle a un cap, c'est rendre vivable cette ville de Paris. Et donc, je pense qu'elle battra, et je l'espère, Benjamin Griveaux, parce que finalement, Benjamin Griveaux, c'est l'incarnation de ce monde de parvenus en politique, qui doivent beaucoup de choses d'ailleurs au Parti Socialiste, et qui ont fini par le trahir pour pouvoir satisfaire leur ambition personnelle. Donc, je le dis très simplement, Anne Hidalgo est un grand maire de Paris après Bertrand Delanoë. Je pense que M. Griveaux aura quelques soucis dans l'avenir.
Romain Mouton, c'est déjà féroce, la campagne, là. Monde de parvenus.
Ça ne fait que commencer. Je pense qu'Anne Hidalgo n'est pas morte, pour plein de raisons. Déjà parce que on est quand même à quelques mois d'élection. Les fameux travaux et les bouleversements de Paris seront terminés d'ici l'élection. Donc on verra si les Parisiens préfèrent une ville avec des pistes cyclables ou une ville avec des voitures. Autre sujet, le mode d'élection. Alors là, on dit, oui, la REM est arrivée en tête à Paris. Sauf que dans certains arrondissements, c'est les Verts qui sont arrivés en tête et c'est dans les arrondissements qui amènent le plus grand nombre de conseillers de Paris. Donc ce sera une élection qui sera très serrée. Pour le moment, c'est un boulevard pour personne. Donc ça, c'est le premier sujet sur Anne Hidalgo et ses réserves de voix dans des arrondissements plus à l'est, plus populaires, où les Verts sont arrivés en tête. Et elle a quand même plus à capitaliser sur le vote vert que Benjamin Griveaux.
Oui.
Cédric Villani aurait pu capitaliser sur le vote vert, lui. Et surtout, il aurait pu, parce qu'un scientifique qui parle d'écologie, c'est crédible. Et deuxième chose, il avait des réserves en termes de soutien. Alors, c'est schématique et théorique, mais deux petits candidats que sont Gaspard Ganzer et Pierre-Yves Bournazel, qui sont entre 1, 2, 3, 4, 5 dans les sondages, étaient beaucoup plus Villani compatibles que Griveaux compatibles, parce que leur philosophie, leur façon de faire de la politique, etc. Donc, ils auraient pu, c'est théorique et d'ailleurs tout peut encore arriver, mais une alliance Villani, Bournazel, Gaspard Ganzer et une sorte d'alliance progressive de centre droit aurait peut-être été plus pertinente.
Vous faites bien de rappeler que le boulevard pour l'instant est en travaux à Paris.
Il est encombré.
Henri Vernet, monde de parvenus qui doit beaucoup au Parti Socialiste. On a la sensation que, à travers les mots de Patrick Kanner, il y a une évolution de ce qu'est devenu au fond cette République en marche qui a muté depuis quelques temps, depuis quelques mois, on va dire.
Elle déçoit sur bien des aspects, c'est-à-dire que vraiment, qu'est-ce qui reste cette promesse d'une façon de faire de la politique différemment? On le constate jour après jour, rien ou presque. L'an dernier, enfin l'été dernier, à la même époque, c'était l'affaire Benalla qui montrait que les pratiques de cours, de petites boutiques derrière boutiques où on fait à peu près n'importe quoi, de courtisanerie, etc. Tout cela n'avait pas changé de barbouze. Voilà, cet été, on a donc l'affaire du homard et cette désignation très 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 vieux monde. Donc de ce côté-là, c'est vrai que c'est décevant. En revanche, il reste quand même, moi j'ai l'impression, une capacité, une envie de réformer, de changer ce pays. Moi, ce qui m'avait beaucoup intéressé comme observateur dans la campagne d'un Emmanuel Macron, et d'ailleurs c'est ce qu'il avait également mis en avant quand il était ministre de l'économie, c'est cette idée de briser les carcans qui enserrent la France, qui laisse beaucoup de catégories de population, assigné à résidence, comme on dit. Bon, et donc c'est là-dessus que notre pays a besoin de réformes importantes. Ça, j'espère que c'est pas complètement perdu dans cette équipe, dans cette nouvelle façon en tout cas mener, de gérer le pays. Bon, mais sinon, après quand il dit parvenu, là on sent quand même l'amertume, on sent le PS très revanchard. Vraiment revanchard. Et je suis pas sûr qu'il soit les mieux placés pour utiliser ce genre de terme. Des parvenus, on en a vu partout, à gauche, à droite.
Tous azimuts. Véronique Rémy-Soult, pour revenir sur ce que disait Romain Mouton, concernant les travaux parisiens, ça reste un sujet.
C'est pas que c'est un sujet. Oui. C'est que
c'est une fausse question.
On en parle tout le temps. Alors là, pour le coup, c'est très local, mais on en parle tout le
temps.
C'est
local, oui.
Tout le temps, des tas de fantasmes, des tas de rumeurs circulent sur ces travaux qui seraient commandés, pas commandés, la quantité, le nombre. Il y a eu des cartes qui ont été publiées, mais on dit, enfin bref. Donc oui, c'est un sujet quotidien, mais à peu près tout le monde est d'accord pour dire que normalement ça devrait s'arranger. Donc on va voir.
Ça va aller mieux, comme disait quelqu'un de célèbre.
Et puis globalement, voilà, pour le moment, il y avait que Anne Hidalgo et il n'y avait pas d'autres. Enfin voilà, donc c'était surtout Anne Hidalgo qui portait l'opprobre de ce sujet. Maintenant, on va rentrer dans le détail. Mais globalement, une impopularité, comme si les Parisiens aimaient bien dire du mal d'Anne Hidalgo, même si dans le fond, ils auront l'intention de voter pour elle.
Allez, Mathieu Aron, c'est normal que nous parlions de Paris. C'est la capitale, après tout. C'est la capitale de tous les enjeux de ces élections municipales. Allez, on va refermer ces informés de France Info. Tiens, Mathieu Aron, quelle est la une de l'Obs cette semaine?
Eh bien, c'est une enquête, et j'insiste un peu, c'est une remarquable enquête sur qui est titrée « La vérité sur les EHPAD ». Il y a véritablement énormément de choses qu'on apprend, et en particulier toute la logique financière qu'il y a derrière. Et moi, j'ai appris que les grands groupes qui ont construit les EHPAD privés font des bénéfices absolument considérables, beaucoup plus que la moyenne des groupes du CAC 40. Donc c'est vraiment un dossier intéressant.
Enquête détaillée à découvrir dans l'Obs, à lire, évidemment, à parcourir et lire dans l'Obs, et donc la une du Parisien. Vous l'aviez dit.
Jean-Michel Blanquer.
Merci à vous également, Romain Mouton, Véronique Relsoult. Allez, on rappelle le sondage sur nos sites respectifs, et moi je fais la pub pour le nôtre, franceinfo.fr. Je vous retrouve demain soir pour une prochaine édition des informés de France Info. Merci à tous les quatre. Bonne soirée.